Alors vous allez me dire, bah sur Mars, bah c'est peut-être ça. Sauf que regardez, sur Terre, les bactéries ont vécu pendant plus de 2 milliards d'années. Ensuite, il y a eu la vie multicellulaire pendant près de 1 milliard d'années. Et la vie, finalement, qu'on entend, hein, les animaux, les plantes, eh bien, elle est apparue il y a à peu près 500 millions d'années, 600 millions d'années. Et là, dans l'Atlas, hein, vous pourrez trouver des petites bestioles, pas vivantes, mais elles ont 500 millions d'années. Vous pourrez trouver dans tous les petits marchands de minéraux, excuse-moi Luna, on peut trouver des trilobites, voilà. Des trilobites qui sont des espèces de gros cloportes qui vivaient il y a 550 millions d'années, 600 millions d'années, et effectivement, il n'y a aucune chance d'en trouver vivant aujourd'hui. Hein. C'est un peu vous rassurer. Et donc, je reviens à mes bactéries. Donc, effectivement, cette vie, finalement, a mis quand même plus de 3 milliards d'années pour apparaître. Or, sur Mars, l'eau est certainement restée uniquement quelques centaines de millions d'années. Et donc, l'eau n'est certainement pas restée assez longtemps pour avoir un développement de la vie, comme on l'entend. Et naturellement, on aimerait bien trouver de la vie sur Mars, mais je pense vraiment que si on trouve de la vie, ça sera certainement sous forme de bactéries, peut-être sous de la vie multicellulaire, mais guère plus compliquée en tout cas. Et je pense qu'on peut dire adieu aux Martiens. Alors Mars, elle est entourée de deux groupes de cailloux qu'on appelle Phobos et Deimos. Phobos et Deimos, ce sont en fait deux petites astéroïdes, parce que après Mars, il y a la ceinture d'astéroïdes. Hein. Ce sont des petits corps qui font quelques dizaines de kilomètres à quelques centaines de kilomètres. Hein. On parlait de Cérès tout à l'heure, qui est une planète naine. Et donc, entre Mars et Jupiter, il y a des milliers, voire des millions d'objets de bouts de cailloux qui tournent autour du Soleil. Et de temps en temps, ces bouts de cailloux, évidemment, croisent un petit peu trop près, d'un petit peu trop près la planète Mars. La planète Mars, grâce à sa force de gravité, a certainement attiré ces deux bouts de cailloux, et ces deux bouts de cailloux sont devenus des satellites de la planète Mars. Mais ils sont tout petits, hein, ils font une vingtaine de kilomètres. Alors voilà donc des astéroïdes, hein, vous voyez, vous en avez toute taille, Mathilde, Gaspra, Ida, je ne vais pas tous les citer, parce qu'évidemment, il y en a, je vous ai dit, des milliers, des millions. Et donc, effectivement, toutes ces roches existent entre Mars et Jupiter, et ce sont des roches qui n'ont pas pu se sécréter pour former une grosse planète. Et cette limite, cette ceinture d'astéroïdes, finalement, est ce qu'on appelle, à peu de choses près, la ligne de glace. Hein. Ça va être la limite entre le système interne et externe, la limite entre les planètes solides et les planètes gazeuses. Et on arrive donc justement à la première planète gazeuse, à la reine des planètes gazeuses, à Jupiter. Jupiter, c'est quelque chose de gigantesque finalement, hein. C'est presque une mini-étoile qui a raté, parce que il n'y a peut-être pas eu assez de chaleur, il n'y avait peut-être pas assez de chaleur à l'intérieur pour démarrer les réactions thermonucléaires. Toujours est-il que c'est quand même une boule de gaz qui fait 150 000 km de diamètre. Hein. On peut mettre à peu près 12 fois la planète Terre à l'intérieur de Jupiter, c'est quand même pas rien. Hein. C'est gigantesque. C'est du gaz, et vous le voyez, si on observe Jupiter, on voit des belles bandes comme ça, des bandes horizontales. Jupiter n'est pas observable ce soir, mais si un jour vous revenez, peut-être dans 6 mois à peu près, on pourra revoir Jupiter. Et au télescope, on peut très bien voir les bandes nuageuses, et puis ces espèces de taches, là. C'est quoi ces taches? Ouais.
Ce sont des immenses tempêtes.
Ouais, c'est
bizarre. C'est à peu près la taille de la Terre.
Oh, ouais, même plus gros, parce que celui-là, la grande tache rouge, hein. La tache rouge fait 26 000 km de diamètre, deux fois la taille de la planète Terre. Hein, donc c'est évidemment des ouragans gigantesques qui vont évidemment avec la taille gigantesque de la planète Jupiter. Puis Jupiter, n'est pas seul. Jupiter a un véritable cortège de satellites, un véritable système planétaire. Et ce système planétaire a été observé pour la première fois par Galilée. Par Galilée en janvier 1610, avec sa lunette astronomique. Il n'est pas l'inventeur de la lunette astronomique, il a été le premier, à utiliser la lunette à des fins astronomiques, mais ce n'est pas lui qui l'a inventée. Toujours est-il que pour la première fois, quand il a pointé Jupiter avec cette petite lunette, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des petits points bien alignés. Et ces petits points bien alignés, ils avaient tendance à bouger du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'il venait de découvrir? Tout simplement, les quatre lunes principales de Jupiter, les quatre principaux satellites, ça confirmait la mécanique, de Copernic, où des petits corps pouvaient tourner autour de corps plus gros. Alors voilà donc les...
Ah non, c'est... Qu'est-ce que c'est? c'est pas Galilée, c'est qui là?
Alors c'est un Hollandais, je ne saurais pas vous dire le nom, mais à l'origine c'est comme tout, hein, ça devait être certainement à des fins militaires, hein, presque comme tout ce qu'il y a en astronomie. Certainement il y avait une utilité évidemment pour voir les bateaux à l'éloignement, et c'est un opticien hollandais, je n'aurais pu vous dire le nom, mais en tout cas c'est pas Galilée qui a inventé la lunette. Alors voilà le premier satellite, enfin le premier gros satellite de Jupiter. Alors c'est pas une pizza, hein, effectivement on pourrait penser. Il s'appelle Io. Io, donc c'est un satellite quand même tout à fait extraordinaire, parce que finalement c'est le seul satellite du système solaire à être actif d'un point de vue volcanisme. Si vous allez vous balader là-bas, eh bien vous pourrez voir en direct des éruptions volcaniques. Alors vous allez me dire, où est-ce que ça se passe? Eh bien ici au niveau des olives. Eh bien, ces olives ne sont pas des olives, hein, sont tout simplement des volcans. Il y a de la matière qui va sortir de ces volcans. Naturellement, il fait très très froid. Hein. On est à 700 millions de kilomètres du Soleil. Et à 700 millions de kilomètres du Soleil, il fait à peu près moins 180 degrés. Donc cette lave va sortir, elle est très très chaude. Elle sort, elle se dépose et elle gèle automatiquement. Et vous allez avoir, eh bien, vous voyez, tout ce qui est blanc du gel. Hein, et puis tout ce qui est jaune, du gel de soufre. Bref, vous allez avoir vraiment une planète froide, mais une planète quand même très active. Et effectivement, si vous approchez, hein, ben voilà ce que vous pourrez voir. Ça a été aussi une mission extraordinaire, c'était la mission Galileo, je crois en 96, qui a pris eh bien, cette éruption extraordinaire, hein, en direct comme ça. Imaginez de la lave qui s'envole à plusieurs kilomètres d'altitude. Mais vous allez me dire, mais à quoi est dû ce volcanisme? Parce que finalement, Io, c'est un petit corps. Un petit corps qui fait 4000 km de diamètre, hein, peut-être même un peu plus petit, 3500. Et pourtant, pour avoir du volcanisme, logiquement, il faut être gros, il faut pouvoir avoir de la chaleur, il va falloir pouvoir faire de la convection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, sur Io, il n'y a pas de convection. Sur Io, c'est un petit corps, mais un petit corps qui va être déformé par son entourage. Vous connaissez tous les forces des marées, vous savez tous que la Terre peut avoir, eh bien, la Lune peut avoir une influence sur la masse des océans à la surface de la planète Terre. Eh bien, dites-vous que Jupiter, extrêmement massive à côté, et tous les petits satellites, vont avoir la puissance de déformer la surface de Io. Ça va faire un petit peu comme une éponge, finalement. On va appuyer sur Io, on va compresser Io, et en la compressant, eh bien, il va y avoir du liquide qui va sortir. Un petit peu comme quand vous pressez votre éponge, le liquide va sortir, et vous allez avoir des éruptions volcaniques. Eh bien, Io, c'est la même chose. Hein. Les planètes aux alentours la pressent tellement que vous allez avoir un volcanisme très actif. Et plus on s'éloigne de Jupiter, plus finalement ces forces de marée vont être importantes. Mais quand même encore très importantes sur ce satellite qu'on appelle Europe. Europe, vous le voyez, il y a plein de stries, plein de fractures. Qu'est-ce que c'est que ces fractures? Eh bien, c'est tout simplement des fractures dans la glace. Parce que Europe est une grosse boule de glace. Une grosse boule de glace, où peut-être à l'intérieur, il y a peut-être de l'eau liquide, ça, on n'en sait rien pour l'instant, on le pense. Et avec ces forces de marée gigantesques, on arrive à casser la glace d'Europe. On arrive à casser cette glace et l'eau liquide, qui est certainement à l'intérieur, va remonter à la surface et va venir regeler à la surface. Et donc on a un renouvellement permanent de la surface d'Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez aucun cratère. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que sur toutes les planètes solides, on voit des cratères qui se sont formés il y a 4 milliards d'années. Eh bien, Europe a eu son lot de cratères aussi il y a 4 milliards d'années. Sauf que depuis 4 milliards d'années, Europe n'arrête pas de se déformer, l'eau, le liquide remonte à la surface et recouvre sans cesse la surface de la planète du satellite Europe. Et donc effectivement, sur Europe, eh bien, on voit plus de cratères, on voit uniquement des fractures. Et plus on s'éloigne, eh bien, plus évidemment la force de Jupiter va être faible. Et moins les fractures, moins on va pouvoir déformer la surface des satellites, moins on va pouvoir casser cette glace. Et voilà donc Ganymède. Ganymède, eh bien vous voyez encore des fractures. Vous voyez toutes ces lignes-là, ce sont des fractures, mais vous voyez quand même un grand nombre de cratères. Et donc on va dire qu'il y a eu un renouvellement, on va dire semi-total. Hein. Il y a eu quand même des fractures, mais il reste quand même des cratères qui sont formés donc il y a 4 milliards d'années. Et quand vous vous éloignez totalement, eh bien vous arrivez à Callisto, et là vous voyez, on est trop loin, hein. On est à plus d'un million de kilomètres de Jupiter. Plus à cette force, on ne déforme plus la surface, plus de fractures, et vous observez eh bien, des milliers de cratères à la surface de ce satellite. Et ce sont évidemment tous les cratères qui se sont formés eh bien, lors du bombardement météoritique initial. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bombardement après, mais en tout cas, la majorité, c'est il y a 4 milliards d'années. On avance, on continue de voyager, et là, on arrive quasiment au fin fond de notre système solaire, hein. Saturne, la belle planète des anneaux. Effectivement, c'est une planète extraordinaire, parce que si on a le ciel avec nous en deuxième partie de nuit, là, eh bien, on pourrait voir Saturne. On pourrait voir Saturne quasiment comme ça. Parce qu'effectivement, on voit cette grosse boule gazeuse, mais on voit aussi ce gigantesque anneau, un système d'anneaux, et on le voit très très bien. Alors évidemment, ne pensez pas que cet anneau, hein, c'est un disque vinyle qu'on a mis à tourner autour de la planète, c'est tout simplement des millions de bouts de cailloux qui tournent autour de Saturne. Des bouts de cailloux qui sont trop proches pour former un satellite, et donc ces cailloux, eh bien, sont restés cailloux, et sont formés un gigantesque anneau autour de Saturne. Alors vous ne pouvez pas marcher, hein. Je vous déconseille de passer avec votre vaisseau spatial là-dedans, parce que vous ferez complètement broyer. Mais en tout cas, cette planète donc, est une grosse planète gazeuse aussi, hein. Elle fait quand même 120 000 km, hein, 10 fois la planète Terre, c'est quand même pas rien. Et elle ressemble aussi à Jupiter, hein. C'est une planète principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, hein, comme la planète Jupiter. Elle a aussi son lot de satellites, hein. Voilà, une soixantaine de satellites, des satellites glacés, pareil, qui se ressemblent un petit peu. Mais qui sont quand même tous différents, mais on ne les connaît pas assez finalement, hein. On n'a jamais envoyé de sondes sur tous les satellites. Et puis il y a une boule, hein, qu'on connaît bien maintenant, c'est le satellite Titan. Alors Titan, voilà à quoi ça ressemble, hein. Vous allez me dire, c'est pas très accueillant. C'est une boule toute orange, on ne voit rien à la surface. Et récemment, donc il y a 2 ans, hein, il y a la sonde Cassini-Huygens, et puis qui est toujours là actuellement, qui prend des photos à travers les nuages de Titan. Et qu'est-ce qu'ils ont bien pu observer? Alors Huygens, hein, la petite sonde européenne, a pu rentrer dans l'atmosphère de Titan, et elle s'est posée, et a pu prendre donc des photos de la surface. Voilà à quoi ça ressemble Titan, vous allez me dire, c'est pas non plus très accueillant, hein, personne à l'arrivée. Et vous voyez aussi des formes un peu bizarres, des formes noirâtres à la surface. Et on a observé, alors je ne sais pas si j'ai mis l'image, mais et voilà. Voilà quoi, ce qu'on a observé, ce qui est quand même assez extraordinaire, hein. Ça vous fait penser à quoi, ça? Hein? Regardez les lignes noires, là. Des rivières, eh oui. Des rivières, est-ce que c'est des rivières d'eau? Comment? C'est comment, monsieur? Ah, de méthane, ouais. Alors, effectivement, ça peut pas être d'eau, hein. Je vous rappelle, il fait moins 180 degrés, là, hein, donc l'eau, évidemment, hein, ça fait longtemps qu'elle est gelée. Mais effectivement, à moins 180, par contre, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver du méthane liquide. Le méthane, hein, c'est un gaz carboné. Et ce gaz carboné, eh bien, a réussi à couler à la surface de Titan et à former des rivières à la surface de Titan, et notamment aussi des lacs. Voilà ce qu'on a trouvé il y a à peu près quelques mois, hein. On a trouvé des lacs à la surface de Titan. Tout ça montre, eh bien, qu'à la surface de Titan, on a vraiment un satellite très compliqué où il y a une activité, eh bien, certainement un cycle du méthane. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on connaît encore très mal cette planète. Il va falloir envoyer quand même d'autres satellites pour connaître un peu mieux l'histoire de Titan. Un autre satellite intéressant, ça c'est Encelade. Encelade, bah, vous voyez, hein, il y a des fractures pareilles partout, un peu comme Europe. Pareil, des forces de marée qui ont déformé la glace. Et récemment, eh bien, on a observé un phénomène quand même assez extraordinaire. La sonde Cassini, eh bien, a pu surprendre, alors c'est des fausses couleurs, hein, mais on a surpris un jet de matière qui sortait d'Encelade. Et ce jet de matière, eh bien, on pense que c'est tout simplement un geyser d'eau. Un geyser d'eau qui était de l'eau qui était sous pression, en dessous la croûte de glace. Naturellement, il y a peut-être de la chaleur à l'intérieur d'Encelade. Cette chaleur va permettre de faire remonter l'eau, l'eau va, disons, porter une pression au-dessus sur la glace, et ça va faire un bouchon de champagne, hein. La glace va casser et on va avoir un geyser d'eau. Alors de l'eau liquide, ça encore, on n'en est pas encore sûr, mais en tout cas, on a vraiment des preuves, hein. Enfin, en tout cas, on a le droit de penser peut-être qu'il y a de l'eau liquide en profondeur. Alors on arrive maintenant au système finalement qu'on ne connaissait pas il y a encore 200 ans, 230 ans, hein, puisqu'effectivement Uranus a été découvert en 1781 par William Herschel, un astronome anglais avec un petit télescope, hein, de 18 cm, même peut-être de 16 cm, hein, vous voyez, on arrive à découvrir des planètes avec des petits télescopes. Et Uranus, bien, c'est une planète gazeuse aussi, un peu plus petite que Jupiter et Saturne, hein, elle fait quand même 50 000 km de diamètre. composé aussi d'hélium, d'hydrogène, de méthane, et qui a, là, vous le voyez, un ensemble de lunes hein, qu'on connaît encore très mal parce qu'on est passé finalement qu'une fois à côté d'Uranus, en 1986. Hein. On a pris quelques photos comme ça, et voilà ce qu'on connaît d'Uranus, hein, des satellites glacés, fracturés encore une fois, et tout autant de mondes passionnants à aller découvrir. Et après 1781, eh bien, on a constaté que Uranus avait des perturbations sur son orbite. C'est-à-dire qu'elle bougeait un peu bizarrement dans le ciel. Et la communauté astronomique a commencé à penser qu'il existait certainement un huitième corps dans le système solaire, assez massif, pour pouvoir eh bien, détourner Uranus de son orbite. Un petit peu pour la perturber. Et c'est à ce moment-là que des astronomes eh bien, se sont mis à calculer sur le papier, uniquement grâce aux lois de la mécanique céleste, à la physique newtonienne, eh bien, ils ont réussi à calculer la position dans le ciel de cette huitième planète. Oui ?
C'est le pôle sud, il est tourné vers le Soleil.
Alors oui, sur Uranus, mais ça j'en ai pas parlé, mais effectivement Uranus ne tourne pas comme la Terre, enfin en tout cas comme les planètes verticalement. Elle a certainement connu une collision très importante dans son histoire et elle a été basculée comme ça et son axe de rotation est à 90 degrés, elle est complètement à l'horizontale et en fait Uranus tourne sur son orbite. Et ça c'est vrai que c'est assez étonnant. Et donc en fait, quand les astronomes ont calculé, le premier en fait officiellement aujourd'hui c'est un Anglais, c'est Adams, qui en 1843 avait trouvé la bonne... La bonne situation dans le ciel hein, avait bien calculé la position. Seulement, il y a un astronome français, hein, Urbain Le Verrier, qui est devenu directeur de l'Observatoire de Paris après, qui a aussi trouvé en 1846 la position de cette planète. Mais lui, il était connu, hein, il avait quand même une certaine aura, c'était un mathématicien très célèbre, et lui a envoyé ses calculs à un astronome allemand, l'astronome Gall. Et le jour de la réception du courrier, hein, donc en 1846, eh bien Gall a pointé avec sa grosse lunette eh bien, la position de Le Verrier. Et donc le Gall eh bien, a vu pour la première fois Neptune. Sauf que Adams, évidemment, c'était un petit jeune à qui on n'a pas forcément fait confiance. Et la position d'Adams eh bien, a été retrouvée après dans les livres, mais disons visuellement, on l'a pas vu en 1843, et donc il a fallu attendre la confirmation d'Urbain Le Verrier pour découvrir la planète Neptune. Neptune, bah, qui ressemble finalement assez à Uranus, hein, vous voyez, une grosse boule bleue, à peu près la même composition chimique, des vents aussi importants, alors une grosse tache noire là, qui nous fait penser un peu à la tache rouge de Jupiter, des ouragans assez importants, et des satellites eh bien, tout aussi importants, et un qui étonne la communauté, on aimerait bien aller faire un tour là-bas, hein, nos futures vacances, c'est Triton. Triton, bah, vous le voyez, des couleurs, plein de couleurs, du vert, du bleu, du orange, du blanc, bref, plein de choses, du noir. Et du noir, ça c'est aussi assez étonnant, si vous regardez bien, ça pourrait être des volcans. Des volcans de glace, du cryovolcanisme. Hein. Et ça, on n'en est pas sûr, évidemment, parce qu'on n'y est allé qu'une fois, en 1989. Et il va falloir, évidemment, envoyer donc de nouvelles sondes vers Triton. On arrive maintenant à la nouvelle gamme d'objets du système solaire, hein, les objets transneptuniens, ou alors qui comprend les planètes naines. Parce qu'aujourd'hui, donc, il y a les planètes classiques, hein, les planètes, les huit planètes, il y a les planètes naines, et les objets transneptuniens regroupent certaines de ces planètes naines. Et notamment, eh bien, Pluton et Xéna, hein, dont on parlait tout à l'heure. Alors voilà Pluton, voilà la meilleure image qu'on ait de Pluton, hein. On n'a rien de mieux, parce qu'on n'y est jamais allé. Alors il y a une sonde qui est partie, hein, qui va certainement arriver, je ne sais plus les dates, mais en 2015, ou peut-être 2018, je ne sais pas, donc on a le temps de voir, hein. Parce que Pluton, c'est quand même à 6 milliards de kilomètres de chez nous, donc il faut le temps d'arriver. Pluton, elle est accompagnée d'un petit corps aussi glacé, Charon. Mais ces corps sont vraiment tout petits. Hein. Pluton fait 2200 km de diamètre, Charon 1100 km. Donc ce sont vraiment de tout petits corps qui sont bien plus petits que la Lune même. Hein. Donc c'est vrai qu'ils avaient toujours un statut ambigu. Mais lorsque Clyde Tombaugh en 1930 découvrit eh bien, Pluton, bon, bah, c'était la 9e planète et on l'a appelée la 9e planète. Sauf que depuis 10 ans, eh bien, dans les alentours de Pluton, eh bien, voilà ce qu'on découvre. Hein. On découvre d'autres corps, Sedna, 2003 UB313, hein, qu'on appelle Xéna, qu'on appelle Eris, le nom n'a pas encore été décidé vraiment. Charon, Kouawar, tous ces objets bah, qu'on appelle maintenant des planètes naines. Hein. Mais sachez que donc, derrière Neptune, il existe une grande ceinture d'objets qu'on appelle la ceinture de Kuiper, ou la ceinture des objets transneptuniens. Et à l'intérieur de cette ceinture, eh bien, il y a certainement des milliers, voire des millions d'objets hein, qui font peut-être de quelques dizaines de kilomètres de diamètre jusqu'à, eh bien, vous le voyez, hein, Xéna ou Eris hein, fait 2600 km de diamètre et elle est plus grande que celle-là, que Pluton. Hein. Donc c'est finalement le débat est parti de là, où on a commencé à découvrir cette planète qui était plus grande que Pluton et on s'est dit bon, il va falloir l'appeler la 10e planète. Seulement quand on a commencé à découvrir une 11e, une 12e, une 13e planète, et on s'est arrêté, on s'est dit bon, on va mettre un peu le ménage et on va dire qu'il y a 8 planètes principales et après il existe des centaines de planètes après Neptune. Voilà donc finalement la vision du système solaire qu'on peut avoir. Alors c'est une vision d'artiste, hein, naturellement. Au centre, il y a le Soleil. Les 8 planètes dont on a fait le tour tout à l'heure, bah, elles sont peut-être toutes proches, hein, elles sont à côté du Soleil. Donc c'est vraiment, on va dire, le système solaire proche. Et derrière, eh bien, vous voyez une grande ceinture d'objets qu'on appelle la ceinture de Kuiper, composée, je vous l'ai dit, donc de milliers d'objets, comme Pluton. Et autour, eh bien, un grand nuage de gaz, de poussière, de glace, qu'on appelle le nuage d'Oort. Et c'est dans ce nuage d'Oort que naissent les comètes. Alors, avant de parler des comètes très rapidement, dites-vous quand même que le nuage d'Oort, eh bien, il fait quand même une année-lumière. Hein. Une année-lumière, c'est, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la distance parcourue par la lumière en un an, c'est-à-dire 10 000 milliards de kilomètres. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, il vous faudrait un an pour traverser votre système solaire. Donc c'est quand même pas rien. Et donc effectivement, à l'intérieur de ce nuage d'Oort, eh bien voilà ce qu'on trouve. Hein. Des boules de glace, boules de neige sale, on aime bien dire ça, qui tournent autour du Soleil un peu bizarrement. De temps en temps, ces boules sont à des dizaines de milliards de kilomètres du Soleil, de temps en temps à quelques millions de kilomètres du Soleil. Et naturellement, quand on a une boule de glace qui se rapproche du Soleil, eh bien, elle fond. Et on a à ce moment-là deux belles queues qui apparaissent avec une belle queue de matière, hein, de la glace, de la poussière qui est expulsée vers l'espace. Et il y a aussi du gaz libéré qui provoque cette belle queue bleue. Alors, naturellement, ça c'est notre système solaire, c'est là où on habite. Hein. Donc si évidemment on vous enlève, sachez quand même que vous habitez là. Mais dites-vous quand même qu'il existe évidemment des étoiles aux alentours. Hein. Il n'y en existe pas quelques dizaines, hein. Il y en existe quelques millions, quelques milliards autour de nous, et qui sont rassemblés en une gigantesque Voie lactée. La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. C'est là où vous habitez, donc vous habitez système solaire, Voie lactée. Voilà ce que vous devez retenir ce soir. Et cette Voie lactée, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vue de notre galaxie par la tranche. Qu'est-ce que c'est une galaxie? Eh bien voilà, c'est ça. La galaxie, ça c'est notre galaxie. Enfin, c'est pas la nôtre, puisqu'on ne l'a jamais quittée, évidemment, on est dedans, on aura du mal à la quitter. Ça c'est la vue, c'est la photo d'une autre galaxie. Et notre galaxie, la Voie lactée, pourrait ressembler à celle-ci. Dites-vous qu'à l'intérieur, il y a 300 milliards d'étoiles, hein, 300 milliards d'étoiles comme le Soleil. Le Soleil, c'est pas ça, hein. Ça c'est le centre galactique. Le Soleil, dites-vous, c'est un petit point qui se situe en banlieue, en périphérie de notre galaxie, et qui est quand même à 30 000 années-lumière du centre galactique. Notre galaxie fait quand même 100 000 années-lumière. Dites-vous que pour sortir, hein, pour aller voir votre voisin à 100 000 années-lumière, il vous faudrait quand même 100 000 ans à la vitesse de la lumière, c'est quand même pas rien. Qu'évidemment, pour quitter la galaxie et pour aller voir les autres, eh bien, il faudra trouver quand même un moyen, mais ça va être difficile. Et puis pour finir, eh bien, c'est la même image que tout à l'heure. Naturellement, il n'existe pas qu'une galaxie, hein, mais il existe des milliards de galaxies contenant des centaines de milliards d'étoiles, contenant des dizaines de planètes. Et donc évidemment, si vous pensez qu'on est seul dans l'univers, bah, vous avez le droit. En tout cas, il y a certainement des milliards et des milliards et des milliards de planètes, et il y a peut-être un autre endroit, eh bien, où il y a un petit peu d'oxygène, un peu d'eau liquide, et où on peut faire de l'astronomie et monter en haut d'une montagne pour regarder les étoiles quand il n'y a pas de nuages. Voilà, bah, je vous remercie. Merci.